Les colloques du Collège de France.
On reste dans le domaine de la publicité, de la publication avec, et de la chimie, avec l'intervention de Pierre-Yves Lacour. Donc, décrire des savoir-faire, publier des sciences, le vert de gris dans le Montpellier des Lumières.
Bonjour, m'entends ? Oui. Je vais essayer de parler assez distinctement, ce qui n'est pas toujours le cas. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce colloque. J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter donc un petit travail en cours sur le vert de gris dans le Montpellier des Lumières. Alors, le premier point, tout simplement, c'est qu'est-ce que ce vert de gris ? Qu'est-ce que ce verdet ? Alors, premier abord, ça désigne une rouille verte et bleue du cuivre ou d'un alliage à partir de cuivre. C'est ce qu'on peut appeler le sens générique. Et puis il y a un deuxième sens qu'on pourrait qualifier de sens spécifique quand il désigne un acétate de cuivre de cette couleur qui se prépare, nous dit Monté, sur lequel on viendra depuis plusieurs siècles à Montpellier. Alors, ce produit chimique, au 18e, au 17e, au 18e, il va donner lieu à une multitude d'usages en médecine, en chimie, mais surtout en peinture, en raison de sa couleur, pour préserver les bois des intempéries, et puis en teinture, comme colorant. À Montpellier et dans ses environs, la production de vert de gris, elle repose essentiellement sur l'oxydation du cuivre par un acide qui est issu du vin. Alors le cuivre est importé du monde germanique, mais aussi de Barbarie et parfois de la mine de Saint-Bel. Quant au vin, il vient des diocèses proches de la ville, comme on le verra. Le verdet montpelliérain est le plus souvent vendu très loin, notamment en Hollande, et il s'agit typiquement d'une production d'exportation inscrite dans le grand commerce européen. Alors, la production de verdet est particulièrement importante dans le Bas-Languedoc, en particulier dans trois espaces que vous voyez ici, ce qu'on appelle la plaine de Fabrègues, la grande plaine viticole de l'Hérault, ici, et puis bien sûr ici à Montpellier. Dans la ville et ses environs, à la fin de l'Ancien Régime, le commerce de verdet produirait environ 500 000 livres par an, ce qui correspond plus ou moins au 60e du commerce languedocien, ce qui en fait de très loin la première industrie provinciale en dehors du textile. Elle s'insère dans un secteur économique qui est celui de la chimie au 18e siècle, qui intègre la pharmacie, mais également la parfumerie, deux grandes activités économiques de la ville de Montpellier. En 1752, les chiffres ici encore sont assez étonnants, cette production ferait vivre environ 600 familles dans la ville de Montpellier. Alors le verdet va donner lieu à de très nombreux textes de la période moderne. Comme l'a remarqué Henri Michel, il n'est pas un seul rapport d'intendant, pas un seul récit de voyage de l'époque moderne qui ne le mentionne. Parmi ses administrateurs, parmi ses littérateurs, parmi ses savants, quelques auteurs décrivent tout particulièrement les manières de le fabriquer. C'est le cas de Thomas Plater, en 1595, c'est le cas de John Ray en 1675, de John Locke l'année suivante. Au siècle suivant, le chevalier Loret, c'est surtout deux académiciens montpelliérains, le médecin Jacques Serran, lui-même petit-fils d'un démonstrateur de chimie, et l'apothicaire Jacques Monté, qui est la principale figure montpelliéraine pour l'Académie des sciences à la fin du XVIIIe, vont le décrire ses pratiques. Ces trois individus sont liés, tous les trois, d'une manière ou d'une autre, à la Société royale des sciences de Montpellier, l'Académie de la ville, qui est une des plus grandes académies provinciales au XVIIIe. La manière de produire le verdet donne lieu à une série de 5 textes d'académiciens, un mémoire de Serran daté de 1711, et surtout 3 mémoires de Monté, dont on parlera beaucoup, datés de 1750, 1753 et 1776, ainsi que d'une notice parue dans l'encyclopédie en 1765. Alors Monté est typiquement un intermédiaire culturel entre le monde artisanal auquel il appartient comme apothicaire et le monde savant auquel il participe de plein pied comme académicien et encyclopédiste. Il fait d'ailleurs partie des 3 apothicaires membres de la Société royale des sciences à la fin du siècle, signe, comme l'indiquait déjà Daniel Roche, de leur notabilisation locale. Chacune de ces descriptions se veut plus précise que la précédente, ce qui est une manière également de justifier la multiplication de ces descriptions des manières de faire. C'est d'ailleurs ce que laisse entendre Montet dans un de ses textes, non pas simplement au travers du mémoire lui-même, mais également de la représentation d'une jarre qu'on appelle une houle, plus précise que celle de Jacques Serrano précédemment. Alors, à partir de là, quels peuvent être les enjeux de l'appropriation, si on veut garder ce mot-là, des mots et des savoirs de la pratique des faiseuses de Verdet par les savants académiciens. Alors, je ferai une première partie sur ces femmes qui produisent le Verdet, les productrices de Verdet. Les fabricants de Verdet sont presque toujours désignés dans les textes, dans ces mémoires, au travers du pronom impersonnel « on ». Il ne faut pas s'y tromper, cette non-personne est presque toujours une femme, une fabricante de Verdet. C'est une fabrication qui d'ailleurs est très largement réputée féminine. Tous les textes depuis le XVIe et jusqu'au XIXe siècle attachent cette production de verre de gris ou de Verdet aux femmes de la ville. L'inspecteur du Verdet Gabelier, d'ailleurs, écrit au milieu du siècle « S'il s'est trouvé des hommes qui aient voulu aider leurs femmes, ils ont été hués par les autres femmes comme faisant une chose qui ne serait pas de la dignité de l'homme. » Plus intéressant encore, me semble-t-il, une note de d'Aigrefeuille, qui est l'historien de la ville et qui publie une histoire de la ville en 1737, avec un chapitre consacré aux statuts et coutumes de la ville. On y lit « Je ne sais si je ne pourrais pas y ajouter, aux dites coutumes de la ville, la propriété du Verdet ou Verdegris que le président Philippi attribue aux femmes de Montpellier qui s'y attachent avec une affection toute singulière. Nos femmes montpelliéraines conservent comme une sorte de pécule militaire. » C'est une reprise du latin ici, hein, le pécule des soldats en droit romain, et de patrimoine privé, cette poudre verte qu'elles extraient des plaques de cuivre ou de bronze, d'abord avec du vin, etc. Donc là, c'est un point intéressant, en quelque sorte, où cette production féminine est transformée en quasi-coutume de la ville. Alors, fondamentalement, comme il avait déjà été remarqué, notamment par Henri Michel, la production de Verdet est une production domestique féminine. Sa fabrication, par exemple, n'est pas une seule fois mentionnée dans la visite générale des presque 5000 ménages de la ville, qui est réalisée par les consuls en 1679. De la même manière, en 1789, à la veille de la Révolution, le rôle de la capitation ne mentionne qu'exceptionnellement des fabricants et fabricantes de Verdet parmi les 8000 chefs de famille imposés. La faiblesse de ces chiffres, par rapport à une pratique que l'on sait par ailleurs très répandue, souligne qu'il s'agit foncièrement d'une activité d'appoint, source de revenus complémentaires pour les familles. C'est une activité féminine donc, mais quelles sont ces femmes ? Alors, la hiérarchie des emplois féminins dans la fabrique de Verdet est assez nette. On peut s'appuyer sur le texte un peu plus tardif d'un autre chimiste, montpelliérain, Chaptal, qui explicite que dans la plupart des maisons, il y a une cave de verre de gris, et c'est la maîtresse de maison qui d'ordinaire en dirige et exécute les principales opérations. Les femmes propriétaires de ces petites fabriques n'appellent des manœuvres que lorsqu'on veut racler le Verdet ou former des couches. On appelle ces manœuvres les faiseuses de Verdet, qui, elles, appartiennent le plus souvent au milieu pauvre. Et puis, il y a une autre figure féminine, qui sont les courtières. La collecte et la vente de Verdet est opérée par 8 courtières assermentées de la ville. 8 courtières pour 600 familles, cela fait en gros une courtière pour 75 ateliers, dont le métier est très encadré par un règlement de 1711. Elle livre le Verdet au bureau du poids du roi, où il est vérifié, puis le porte au marchand. Production et collecte sont donc deux activités féminines encadrées par des hommes au niveau notamment commercial. L'amont et l'aval de la production et de la collecte est en effet ordonnée, coordonnée par les négociants de la ville qui apportent le cuivre et commercialisent la poudre. Et puis il y a une deuxième forme d'encadrement masculin également, c'est la surveillance de la qualité de la production, qui est surveillée par un inspecteur, qu'on appelle l'inspecteur du Verdet, sur le modèle de l'inspecteur des manufactures, et qui dépend directement de l'intendant du Languedoc. Avec son commis, il vérifie la qualité de la production, son humidité, son intégrité, et délivre un certificat de visite et un certificat d'expédition. Ces deux pratiques assurent ce que Jean-Claude Martin a pu appeler la traçabilité du produit. Le Verdet, produit par des femmes, encadré par des hommes, leur offre, et je crois que c'est un point assez décisif, une plus grande autonomie dans la ville. Cette question de l'autonomie des femmes est, me semble-t-il, assez intéressante et neuve ici. En 1710, lors d'une vente à Lancan, qu'a repéré une étudiante de thèse d'Aix qui s'appelait Clairuet, les biens cédés d'une productrice sont essentiellement du verdet, du cuivre, des jarres, qui sont appelées les houles, pardon, et des ustensiles de production, le tout pour 110 livres, ce qui n'est pas du tout une somme négligeable. Deuxième remarque liée à cette vente à Lancan, tous les biens qui sont vendus et qui se rattachent à la production de verdet sont achetés par deux autres femmes que l'on devine également être productrices de verdet, propriétaires des rares instruments nécessaires à sa fabrication. Et puis en dehors de la production, de l'échange des moyens de production, il y a également la question de la consommation. On a une trace intéressante chez Thomas Plateur, et puis en plus encore chez Pierre Prion, qui est passé par la ville en 1710-1712, et qui explique que l'on y voit les femmes faire le verdet, et du prix de cette marchandise, elles en achètent leurs bijoux et leurs toilettes, le reste est employé en fruits et tourtes pour les collations qu'elles aiment à faire très souvent entre elles et leurs amis, ou pour les talonner pour leurs souliers. Autrement dit, par les revenus qu'elles tirent de la fabrication du verdet, les femmes s'assurent une plus grande autonomie, en particulier en matière de consommation, qui en quelque sorte sort les revenus tirés de cette production, on va dire, du panier familial. Alors, à partir de là, quelles sont les pratiques de ces productrices ? Alors, les pratiques des fabricantes, elles sont connues au travers de plusieurs textes que j'ai présentés en introduction et qui ont tous en commun d'avoir été rédigés par des hommes lettrés. C'est typique de la relation d'écriture propre à l'écriture historique, historique au sens étymologique, c'est-à-dire les formes descriptives et pas simplement historiennes, qui distinguent ceux qui écrivent et ceux, ici, celles qui sont écrites. Alors, on va parler dans un tout premier temps de la cave et de la marmite. La production s'opère à domicile, avec un équipement réduit. Et on observe très largement, on y reviendra, un transfert des mots et des pratiques de la sphère domestique à la sphère du travail. La cave d'abord. La production de verdet se fait essentiellement dans les caves des maisons, dont les ouvertures sont murées, et souvent avec un point chaud l'hiver. Or, comme l'écrivent Daniel Fabre et Jacques Lacroix, dans la plaine languedocienne, en pays vigneron, les caves relèvent foncièrement du domaine viril. Les femmes investissent ainsi cet espace réputé masculin avec leurs ustensiles de production. Et puis, en dehors de ces caves, il y a les instruments, et le principal de ces instruments, c'est ce qu'on appelle les houles. Alors, le mot houle vient de la langue vulgaire du pays, comme l'indique Monté, c'est-à-dire de la langue d'oc, et il vient du mot hola, qui est prononcé oula, qui est traduit par marmite dans le dictionnaire languedocien de Pierre-Augustin Boissier de Sauvage. Alors, la marmite renvoie, là encore, typiquement à la cuisine des femmes, hein, ce qu'avait notamment souligné, pour un objet tout à fait différent, Yvonne Verdier. On aurait tendance à lire cette féminisation du métier comme la naturalisation d'une forme de travail qui est inscrite dans le prolongement du travail domestique féminin. Il faut également s'intéresser pardon, sur homo utilisé par ces femmes. Les termes de l'art. Serran et Monté définissent les mêmes termes de l'art de la production du Verdet qui sont souvent mis en italique. Lisoule, aviner, nourrir le Verdet, cotonner, couvage. Ces termes, précise Monté, sont ceux des faiseuses de Verdet. Les expressions couver, nourrir le Verdet gris renvoient également à la figure de la maternité. Et puis certains textes, celui du chevalier de Lorès et plus encore celui plus tardif de Chaptal, donnent certains mots en occitan. Koufidou, désafouga, koua, etc. Ces termes correspondent à une transcription phonétique et à une francisation du vocabulaire occitan. Par exemple, koua vient du verbe koar, prononcé koua, qui signifie couver. Ces termes de l'art en langue d'oc sont ceux des femmes du peuple, par différence avec le français qui, dans la ville de Montpellier au XVIIIe, est bien sûr la langue de l'État, de l'administration, des élites et des savants académiciens. Quelle pratique peut-on tirer de ces femmes à partir des textes des savants? Quels sont les savoir-faire des productrices? Alors les savoirs pratiques résultent, on le dit souvent, de la connaissance par expérience. Il s'agit d'un savoir qui est essentiellement féminin ici. Par exemple, on peut lire que les femmes connaissent si fort le dommage que l'huile peut porter à leur travail, que, etc. Ces savoirs pratiques ne sont pas mis par écrit par les faiseuses. Pour reprendre une expression de Jean-Baptiste Vérot, le savoir-faire sans pouvoir dire caractérise le travail des fabricantes de Verdet et au-delà, croit-on, la presque entièreté des mondes productifs populaires. Ces savoir-faire ne sont pas énoncés par les faiseuses, mais observés par les savants. D'où la question, comment ces ouvrières sont-elles observées par les savants et d'abord par Monté? Monté va multiplier les observations de leur manière de faire, mais aussi les observations des caves et des houles. Il s'appuie sur leurs témoignages oraux, mais il le précise simplement en deux occasions. Soit il mentionne le vocabulaire de ces femmes, notamment au travers de la formule « comme parlent les femmes » ou « comme disent les femmes ». Soit sur un mode anecdotique, c'est-à-dire autour d'un récit d'anecdote, au travers du témoignage direct, souvent introduit par la formule « la femme qui », etc. Il mentionne bien davantage d'ailleurs ces observations que le témoignage des femmes elles-mêmes, pardon, et il est possible que les faiseuses considèrent que leur travail ne mérite pas d'être décrit, c'est pour ça qu'elles n'en parlent pas, ce qui est une chose que l'on repère assez communément dans l'ethnologie des pratiques de travail aujourd'hui, enfin, depuis qu'elle existe, depuis un siècle, ou alors qu'elles cherchent à dissimuler, hein, une partie de leur savoir-faire. Troisième point, la question de la variation des pratiques. Alors les approches du savoir-faire, ou des savoir-faire artisanaux, me semble-t-il, valorisent trop souvent l'unité des techniques artisanales. Je voudrais ici, au contraire, montrer la diversité des manières de produire le Verdet-gris par ces femmes. Alors il faut d'abord commencer par ce qu'on appelle le procédé de Montpellier, en présentant sa chaîne opératoire. Cette chaîne opératoire connaît deux temps. Dans un premier temps, les lames de cuivre, qui sont généralement chauffées, sont mises en contact avec un acide de vin et les rafles dans les jarres. Dans un second temps, une fois le processus enclenché, les plaques de cuivre sont couvées dans un drap imbibé d'un liquide, de vin, de vinasse ou d'eau. Enfin, les facs de cuivre sont raclés avec un couteau pour en séparer le Verdet. Mais à partir de ces quelques traits communs à la pratique, beaucoup de choses diffèrent d'une cave à l'autre, comme d'un bout à l'autre du siècle. Quelle variété et quelle historicité dans ces pratiques? Alors Monté insiste d'abord très largement sur la variété des pratiques des femmes, notamment dans de nombreuses phrases qui sont balancées entre quelques particulières font ainsi, alors que d'autres font autrement. Cette diversité des pratiques et, me semble-t-il, une manière d'ajuster des compétences techniques à des circonstances qui sont toujours localisées. La température de la cave n'est pas la même d'une cave à l'autre, le taux d'humidité n'est pas le même d'une cave à l'autre non plus, et le vin employé n'est pas nécessairement le même d'un lieu à l'autre. Dalbos et Jorion ont parlé sur un tout autre objet, la saliculture, d'un savoir y faire, où le « i » sert de rappel à l'ordre de la nécessité. Le savoir y faire est en quelque sorte le sens de l'adaptation et ne se réduit en aucun cas à la seule habileté technique. Variété des pratiques donc, mais aussi historicité des pratiques. Monté se montre sensible au changement de pratique et parfois à la coexistence de manières de faire qui semblent appartenir à des temporalités différentes. Ainsi, si on reprend la question de la première séquence de production. En 1711, pour Serrane, l'oxydation du cuivre est opérée par des vapeurs spiritueuses, de vinasse. En 1750, les plaques de cuivre sont trempées dans du vin, et en 1779, il est désormais d'usage d'employer non plus du vin, mais le marc de raisin pour l'oxydation des plaques de cuivre. Les procédés artisanaux ont donc une histoire, et même une histoire en évolution très rapide. Soit une anecdote qui, me semble-t-il, révèle la sérendipité ouvrière, si tant est que ça veut marcher. Alors, Monté revient sur ce dernier changement, sur l'abandon progressif du vin et son remplacement par le marc de raisin dans son dernier mémoire en mentionnant une anecdote qui serait arrivée en 1778. Je rapporterai ce que m'ont dit les femmes dignes de foi. Une femme de Saint-André, diocèse de Lodève, village éloigné de Montpellier de 6 lieues, faisait du verre de gris. Il y a environ 2 ou 3 ans que, donnant à son âne du marc de raisin à manger, elle en laissa tomber par mégarde sur quelques plaques de cuivre. Le marc couvrit les plaques, qui furent oubliées. Quelques jours après, ayant voulu ramasser le marc de raisin, elle trouva au-dessous les plaques de cuivre enduites d'une couche de verre de gris. Frappée de cette observation, cette femme mit bientôt en usage le marc de raisin, qui lui réussit très bien. Son procédé, suivi par d'autres personnes, gagna de proche en proche. Ce n'est qu'à la fin de l'année dernière, 1778, qu'on a commencé pour la première fois à Montpellier à préparer le verdet de cette méthode. C'est un récit de découverte fortuite, somme toute assez classique, qui emprunte au modèle de l'écriture de l'histoire des sciences, qui serait opéré par voie d'anecdote, plus précisément par voie d'accident. Et si on cherche un modèle très immédiat, on le trouvera avec Newton et sa pomme, en quelque sorte, hein, qui est, on peut dire, le glorieux antécédent de cette petite anecdote de savoir-faire artisanal. Point suivant, je voulais vous parler de la question du mystère des lieux et du secret, et on pourrait mettre des guillemets autour de secret, des pratiques. Alors le verdet est longtemps attaché à Montpellier, comme s'il ne pouvait être produit que dans cette ville. Il s'agit ici d'un faux mystère, par contre, d'un faux mystère qui est attaché à de forts enjeux économiques. On viendra d'abord sur qu'on peut appeler le mystère des lieux. En 1675, le naturaliste John Ray écrit que c'est à Montpellier que l'on fait le meilleur verdet. On nous a dit qu'il était impossible d'en produire d'aussi bon ailleurs, même en utilisant la même méthode et les mêmes ingrédients, que ce soit dû à la justesse de la température, à la nature du vin utilisé ou à quelque autre qualité inconnue. Un siècle plus tard, un poète, Rosset, magistrat montpelliérain par ailleurs, écrit que c'est une chose remarquable que le verre de gris ne réussit que dans les caves de Montpellier et dans celles de quelques villages des environs. Les tentatives qu'on a faites à Nîmes ont toujours été inutiles, ce qui paraît démontrer que la qualité des caves contribue principalement à le former. Cette exclusivité locale, elle est alors présentée comme un mystère. Mystère qui tiendrait soit à l'une des matières premières, la qualité des vins, soit à l'environnement, la qualité de l'air, la qualité du sol, le degré de température, l'environnement du site de Montpellier et de ses terroirs, ou l'environnement des caves où est élevé le verre de gris. Alors ce discours, il va évoluer après 1750. Ce discours, d'abord, jusque dans 1750, il est, semble-t-il, largement utilisé, diffusé et très probablement également colporté par les premiers intéressés que sont les fabricants et les négociants de Verdet pour défendre leur production sur le marché européen. Elle est en tout cas, cet caractère exclusif, rapporté par l'inspecteur du Verdet Gabelier dans son mémoire de 1751. Mais à la même époque, une année plus tôt, Monté va souligner qu'on pense communément qu'on ne peut en faire qu'en cette ville et dans quelques autres lieux voisins. Mais je suis persuadé qu'on peut en faire partout si on connaît le procédé et si on veut se procurer les vins propres à cette opération. 1750, dans les 30 années qui suivent, le mystère semble être complètement résolu. Le bon Verdet suppose tout simplement un vin fort en alcool, tels que ceux que produisent la plaine viticole non loin de Montpellier. Quels sont les enjeux économiques de cet exclusivisme montpelliérain? La question de l'inscription locale des industries chimiques est régulièrement abordée par les académiciens de la ville de Montpellier. En 1765, Monté va décrire le procédé dit de Grenoble de fabrication du Verdet cristallisé et insister sur le caractère secret de sa préparation par les fabricants grenoblois. En ce cas, et en quelques autres encore, c'est ainsi le cas par exemple de la teinture qui est issue de la Morelle, à Grand Galargue, pas très loin de Montpellier non plus, vers Nîmes, montre que les questions de secret de fabrication sont très évidemment prises dans des enjeux économiques, qui sont les enjeux des fabricants, mais également dans les enjeux de publication, qui sont ceux des académiciens, soit justement, très précisément, le cas du Verdet et de la négociation du secret du vert de gris. En 1750, Ratte, qui est le secrétaire de la Société royale de Montpellier, va écrire à Fouchy, son homologue de l'Académie des sciences de Paris, en réponse à la demande d'un mémoire pour les histoires et mémoires de l'Académie royale des sciences. Vous trouverez peut-être, monsieur, qu'on s'est déterminé bien tard à vous envoyer un mémoire sur cette matière. Je ne vous dissimulerai point que nous avons été retenus jusqu'ici par la crainte de nuire à nos concitoyens, qui seuls sont en possession de faire le Verdet. Cette crainte nous paraissait fondée, mais d'un autre côté, nous n'avons pas cru qu'il nous fût permis d'avoir des secrets pour vous. Vous verrez, par le mémoire de M. Monté, que nous ne voulons rien vous cacher. Si vous ne pouvez réussir à faire du Verdet, ce sera la faute de vos vins. Il ne manque rien, désormais, à votre instruction. Pour l'Académie provinciale, il est important, nous dit-on, de ne pas fragiliser une activité économique qui est essentielle pour la ville, puisqu'elle fait vivre 600 familles. Et parmi ces gens qu'elle fait vivre, il y a Ratte lui-même, puisque les fouilles opérées par l'INRAP ont réussi à montrer qu'au rez-de-chaussée de l'hôtel particulier qu'il occupait, était présent un laboratoire de production de Verdet. Alors, la publication du procédé de fabrication du Verdet, qui est entendu ici à tort comme la divulgation d'un secret artisanal, elle sert quand même à quelque chose. Elle sert la carrière savante de Monté, qui va se faire voir trois fois de suite à l'Académie des sciences de Paris, où il envoie trois mémoires successifs sur la question. Mais elle sert également les intérêts de l'Académie montpelliéraine eux-mêmes, qui, en quelque sorte, au travers de ses envois, fait vivre son lien avec sa grande sœur parisienne. Question suivante que je voulais voir avec vous, la question du partage des savoirs. Alors, le savoir sur la production du Verdet est partagé entre les productrices et le savant. La notion de partage étant bien sûr employée ici dans ces deux acceptions, à la fois comme chose en commun et comme dissociation des connaissances. Premièrement, les corps sensibles. Alors, le premier corps sensible dont je voudrais parler, c'est celui de Monté. Que fait Monté avec son corps? Il goûte les efflorescences blanchâtres sur le Verdet. Il sent les odeurs dans l'air. Il regarde, en particulier il regarde avec la bougie dans les houles. Il repère au toucher la viscosité des vins blancs. Seul l'ouïe, finalement, est absence. Alors ces usages des sens caractérisent, me semble-t-il, très bien l'économie sensorielle de la pharmacie et de la chimie au siècle des Lumières, économie sensorielle d'ailleurs assez foncièrement différente de celle que l'on connaît en histoire naturelle, par exemple en botanique. Et puis les faiseuses. Les faiseuses de Verdet, il écrit « J'ai parlé ailleurs d'une odeur d'éther. Elle est encore un moyen de juger de la réussite de l'opération et ce moyen est connu des femmes qui préparent le verre de gris. Elles touchent également les lames pour s'assurer de leur humidité au relais. » Finalement, ces deux économies sensorielles, celle de montée et celle des faiseuses, nous paraissent assez peu différenciées. La seule différence étant ici dans l'usage du goût, qui est, il est vrai, fondamental dans la chimie et la pharmacie à la fin du XVIIIe encore. Ces corps sensibles sont donc homologues en quelque sorte, mais qu'en est-il des savoir-faire partagés? Une notion importante que l'on repère dans ces textes est celle de coup d'œil. Montet indique que le temps du relais et de la nourriture du verre de gris n'est pas fixé. Seul le coup d'œil décide de sa perfection. Le coup d'œil passe ici, paradoxalement, non pas par le regard, mais d'abord essentiellement par l'odorat. On peut le dire, les faiseuses de Verdet ont du flair, terme qui s'emploie dès le XVIIIe siècle pour signifier, d'après le dictionnaire de l'Académie, pressentir, prévoir. Le coup d'œil, c'est ainsi savoir déterminer le bon moment de placer le cuivre dans les houles, moment qui, l'été, ne dure qu'une journée. Il faut savoir repérer le point de fermentation, qui est l'instant à saisir, le kairos. L'expérience est fondamentalement une manière de maîtriser les aléas des processus physiques et de connaître ce bon moment. Et puis il y a les tours de main. Montet parle à deux reprises des tours de main. On sait que tout dépend dans la plupart des opérations chimiques d'un tour de main que le bon chimiste praticien attrape par le long usage de travailler. Aujourd'hui que la chimie a fait tant de progrès en éclairant la partie des arts qui est de son ressort, on a trouvé qu'il ne fallait qu'un tour de main pour le Verdet faire bien cristalliser. Le savoir des faiseuses et de monter, c'est moins la technicité du geste qui nous paraît assez incertaine, du moins non signalée, que cette perspicacité sous-produit de la réitération des pratiques de l'expérience au sens d'avoir de l'expérience. Alors, je vais quand même terminer sur... Tu me laisses deux minutes encore sur ce que j'appelais ici l'intensification savante, c'est qu'en fait, il n'y a probablement pas de différence si fondamentale entre les savoir-faire des faiseuses et le savoir-faire de Montet. Mais par contre, il y a deux choses qui sont quand même distinctes. La première, c'est un savoir, les deux sont des savoirs qui reposent sur les signes, la connaissance des signes, la capacité à lire des signes, sauf que chez Montet, on observe une systématisation de ces signes et qu'il va valoriser le seul signe qui, en quelque sorte, n'est pas connu des faiseuses. Et la deuxième différence importante, c'est également la pratique et la répétition des expérimentations dans les ateliers avec le thermomètre qui sert ici à marquer la différence. Tu veux que je termine? D'accord. Bon. Oups, pardon. Je vais juste conclure, du coup. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, les descriptions savantes des pratiques artisanales, comme d'ailleurs des pratiques paysannes, pour le Verdet comme ailleurs, ne peuvent être réduites, me semble-t-il, à l'ambition formalisatrice des réductions en art. Le terme « description » doit être pris davantage au sérieux, puisqu'il permet d'accueillir la diversité des manières de fabriquer et l'historicité des procédés de fabrication. Les savoir-faire de la production du Verdet sont au point de rencontre de plusieurs dominations sociales. Le populaire, les femmes et l'occitan face à l'élite savante, les hommes et le français. Mais ces savoir-faire sont aussi une ressource pour l'autonomie des femmes, leur permettant d'investir certains espaces réputés masculins et d'en tirer profit. Dans les mots employés pour désigner les pratiques et les instruments de la fabrique du Verdet, on croit deviner que cette production est pensée collectivement et tacitement comme le prolongement d'activités qui sont considérées comme socialement féminines, plus particulièrement le faire la cuisine dont parlait Luce Giard. La production de Verdet, en quelque sorte, est naturalisée au féminin. Pourtant, il faut souligner que les pratiques des faiseuses et celles des savants ne sont pas si éloignées. Autant qu'on puisse en juger. Tous et toutes observent avec leurs yeux, avec les mains, avec leur nez, tous et toutes font des essais, tous et toutes découvrent des manières de faire mieux, c'est-à-dire avec un meilleur rendement du travail ou avec une plus grande économie de matière. La différence savante, comme on peut l'appeler, n'est pas dans la nature différenciée des pratiques, mais s'opère essentiellement dans deux directions. D'une part, elle s'opère dans l'intensification des pratiques, la multiplication des observations et des expérimentations. D'autre part, elle s'opère dans le recours à l'instrument, ici comme ailleurs le thermomètre, qui sert de marqueur épistémique et social du savant, qui matérialise son autorité. Les savoirs populaires et féminins qui sont décrits par les académiciens sont sans doute appropriés par eux, si ce mot a véritablement un sens ici, mais cette appropriation ne sert pas des intérêts lointains, ceux que l'on imagine, ceux de l'État monarchique et de sa politique mercantiliste, mais davantage les ambitions beaucoup plus directes de quelques savants et d'une institution académique. Monté, la Société royale de Montpellier, révèlent les faux secrets de fabrication par leur publication, ce qui est une manière d'exister aux yeux de l'Académie des sciences de Paris, aussi bien pour le chimiste que pour l'Académie provinciale. Via la publication savante, la question de la propriété des savoir-faire fait place à celle de leur divulgation et de ses enjeux, enjeux qui sont tout à la fois économiques pour les producteurs et les négociants, enjeux de carrière et de réputation pour les savants et l'institution, enjeux qui sont parfois contradictoires. Voilà, je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.